Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition bientôt centenaire, oui je plaisante, en rappelant ou en apprenant à ceux qui nous rejoignent ou à ceux qui nous sont fidèles que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale c'est mieux, probable ou improbable, ça aussi c'est mieux, les petites images qui bougent depuis maintenant... largement plus d'un siècle. Ça, je ne le fais pas à chaque fois, mais rappelons quand même que la bande originale que nous écoutons en manière de générique est celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962. Un petit chef-d'œuvre en français, Diamant sur canapé, In English, Breakfast at Tiffany's. Une musique signée d'Henry Mancini, et oui, c'est de lui le Moon River and Me, susurré par les chœurs dans cette bande originale. Ce jour, eh bien, nous serons bien loin de New York, bien loin des Amériques, quoique vous allez le voir, et bien loin surtout du XXe siècle, puisque nous allons évoquer quelques films qui prennent la Révolution française comme sujet, comme cadre de leur intrigue, de leurs personnages, de leurs histoires. Et nous allons commencer par un film tourné en 2006 par Sofia Coppola. Mais oui, c'est bien la fille de l'autre, du fameux réalisateur du Parrain et de quelques autres. Conversation secrète, il y en aurait tant. Apocalypse Now, Sofia Coppola qui, en 2006, après avoir tourné le remarqué Virgin Suicide, eh bien, ou Suicide, je ne sais pas trop, s'essaya à évoquer au cinéma la vie de Marie-Antoinette, interprétée pour l'occasion par Kirsten Dunst, j'espère le bien prononcer, qui fut, sauf erreur de ma part, la petite fiancée de Superman, de Spider-Man, ou un autre de ce genre, mais je crois que c'est Spider-Man. Pardon, amateur de super-héros, excusez-moi. Kirsten Dunst, donc, qui reprenait le rôle de Marie-Antoinette dans un film qui ne lésina pas, en tout cas apparemment, sur l'authenticité, puisqu'il fut tourné au château de Versailles. Alors essentiellement le lundi, le château de Versailles est fermé le lundi et la nuit. Le château de Versailles est fermé la nuit pour la modique somme de 300 000 euros. Je ne parle pas du coût du film, je parle juste du coût de la location du château de Versailles. Si vous ajoutez à cela, eh bien, non pas des décors somptueux, ils étaient déjà là, mais les costumes, les meubles et les macarons de chez La Durée, comme c'est chic. Ma foi, on pouvait craindre le pire et je sais bien que le critique disait on s'attendait au pire, c'est pire. Ce serait méchant, car à vrai dire, eh bien, le film de Sofia Coppola, qui prenait de très 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 grandes libertés avec la réalité historique, avait malgré tout sa propre cohérence esthétique et aussi donnait l'occasion de voir des personnages jeunes. Ça, je crois qu'on l'oublie souvent. Les héros de la Révolution française, alors les vrais héros, Saint-Just, Danton, Robespierre et quelques autres, et les héros malgré eux, Marie-Antoinette, Louis XVI et quelques autres, étaient essentiellement des personnages relativement jeunes, et même si Kirsten Dunst était bien jeune pour endosser un rôle aussi écrasant, du moins apportait-elle à sa prestation une fraîcheur et une sorte d'innocence qui n'était pas si mal venue. Pour un film qui n'évoquait que de très très loin la Révolution française, bien sûr, ce n'était pas vraiment son sujet principal, puisqu'en fait c'est à la fin du film que l'on voyait Marie-Antoinette quitter le château de Versailles et donc aller vers un destin qu'on vous laisse imaginer et que peut-être on apprend encore à l'école. Ma foi, eh bien, je le répète, le résultat n'était pas si malvenu et ce qui avait fait, sinon scandale, du moins avait offusqué quelques bonnes âmes, eh bien, c'était la bande originale de ce film dont nous allons écouter un extrait, puisque bien loin d'avoir choisi des compositeurs du XVIIIe siècle pour accompagner ces images, eh bien, Sofia Coppola avait pioché eh bien, dans des créations beaucoup plus récentes comme Six Shoes and the Banshees, je cite ma petite note, Bow Wow Wow, je ne sais pas, Vivaldi, ah non, Vivaldi, ça, un compositeur ancien, ça, et Rameau, c'est un groupe, non, Rameau, c'est aussi un compositeur ancien, bref, elle avait mélangé différentes influences pour un résultat qui n'était ma foi pas malvenu. On va en écouter un petit extrait, la bande originale de Marie-Antoinette, un film de Sofia Coppola, dans 24 notes secondes. Thank you. Une parfaite illustration de la souplesse musicale de Sofia Coppola dans la bande originale de Marie-Antoinette, puisque c'est bien du clavecin, interprété par Patricia Mabi, dont j'avoue, j'ignore tout, mais je ne pense pas qu'on jouait du clavecin comme ça quelque part vers la fin du XVIIIe siècle. Mais ma foi, même si certains critiques fort méchants dirent, je cite, que Marie-Antoinette ressemble à un numéro spécial de Vogue consacré aux coulisses de Versailles, ce n'était pas très gentil, eh bien ma foi, le film avait quand même son propre charme et je le défendrai s'il le faut. Et puis de toute façon, Kirsten, on t'aime, puisqu'après, on t'a vu dans Mélancolia de Lars von Trier et c'est un des plus beaux films du XXIe siècle, qui est loin d'être fini, je le sais. Bref, petit aparté pour passer à un autre film, alors là dans un genre bien différent et d'une époque bien différente, puisque nous allons remonter le temps jusqu'à 1971 pour évoquer un film qui réunissait dans les rôles principaux Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Laura Antonelli, Michel Auclair, Samy Fray, Pierre Brasseur, Julien Guillaumard, Charles Denner, Mario David, je les cite tous et toutes, car dans les années 70, eh bien, c'était les grands premiers et seconds rôles du cinéma français, le grand cinéma français de la belle époque. Je sais, je fais un peu vieux con, ma foi. Jean-Paul Rapneau me pardonnera d'autant plus volontiers qu'à ma connaissance, il va bientôt tourner un nouveau film. Et oui, Jean-Paul Rapneau, donc, qui en 1971 nous avait offert cette petite merveille intitulée Les Mariés de l'an 2, une évocation donc de la Révolution française, nul ne l'ignore, mais avec un ton comique, léger, humoristique, tout à fait inimitable de la part de l'auteur de La Vie de Château et de quelques autres films tout aussi bienvenus. L'histoire de Nicolas Philibert, parti faire fortune en Amérique et qui revient en France pendant la Révolution française pour divorcer de sa femme, interprétée par Marlène Jobert. Nicolas Philibert étant interprété, ai-je besoin de le préciser, par Jean-Paul Belmondo, ai-je besoin aussi de préciser que ces deux-là qui n'ont de cesse pendant tout le film de divorcer, eh bien, finiront évidemment par tomber dans les bras l'un de l'autre. Tout cela a été charmant, tout cela a été léger, tout cela a été gai, tout cela a été très 18e siècle, très années 60-70 aussi. Et puis tout cela était accompagné, last but not the least, d'une bande originale signée de Michel Legrand. Alors c'est une petite merveille, cette bande originale, donc on s'en écoutera peut-être, si on a le temps, deux extraits, mais on va commencer par Quelque chose qui pulse. Accrochez-vous à votre fauteuil dans 24 notes secondes.
Oh, liberté, liberté sacrée. Liberté, liberté sacrée.
ça vous donnerait presque envie de reprendre une fourche pour aller chasser assureurs, banquiers, traders, notaires, comptables et politiciens aussi, tout ce que vous voulez. L'alliance curieuse de l'orgue et de la révolution pour un extrait de la bande originale des Mariés de l'an 2, une musique de Michel Legrand. J'avoue que je ne sais pas de qui sont les paroles, mais ma foi, c'est plutôt bienvenu pour un extrait d'un film qui n'était pas moins bienvenu. Les Mariés de l'an 2, un petit chef-d'œuvre de Jean-Paul Rapneau signé en 1971 avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert. Marlène aussi, on t'aime avec tes taches de rousseur, tu es si craquante. Bref, ne nous laissons pas aller, surtout que nous allons maintenant évoquer Sophie, on t'aime aussi. Sophie Marceau qui était l'une des héroïnes, et on t'aime beaucoup plus maintenant que dans la Boom 1 et dans la Boom 2, il faut bien le dire. Femme de 50, 60 ans, vous êtes absolument merveilleuse. Bref, Sophie Marceau donc aux côtés de Philippe Noiret, Lambert Wilson, Stephen Frey et quelques autres dans une super production tournée en 1988 par Philippe de Broca et qui s'appelait Chouan. Et oui, un point de vue tout à fait différent sur la Révolution française, puisque le regretté Philippe de Broca n'a jamais caché ses sympathies royalistes et que, en l'espèce, eh bien, le film, qui était une évocation de la Révolution française, quelque part en Bretagne, vous l'auriez deviné, je ne dis pas prenait le parti des Chouans, mais en tout cas, n'était pas outrageusement montagnard ou girondin, c'est le moins qu'on puisse dire. Ma foi, après, chacun aura son avis sur la question, mais en tout cas, il s'agit d'un spectacle de bonne facture, le plus gros budget de cette année 1988 en France, qui fit l'objet d'un film de 2h30 quand même, mais aussi d'une version télévisée de près de 4h. Le tout était signé, je parle du scénario, par les vieux routiers Daniel Boulanger et Jérôme Tonnerre, et ma foi, le tout était là encore un spectacle de bonne qualité. Philippe de Broca, auquel on consacrera bientôt une émission entière, eh bien, avait réussi à cet alliage un peu particulier entre une évocation historique un peu quand même à charge et puis un récit parfois un peu léger qui ne manquait pas de fantaisie. Alors on aurait pu imaginer là encore Michel Legrand à la baguette, mais c'était l'autre grand compositeur de ces années-là et lui aussi, on l'adore, Georges Delerue, qui avait composé la bande originale de ce film, dont je vous propose d'écouter sans plus attendre un petit extrait, Chouan, Georges Delerue, Divergence FM.
Thank you.
Voilà un extrait de la bande originale de Chouan, une musique de Georges Delerue, aisément reconnaissable, le style inimitable de Georges Delerue. Delerue pour un film de Philippe de Broca tourné en 1988 et qui se situe donc dans le cadre, si je puis dire, de notre évocation de la Révolution française. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons passer à tout à fait autre chose, alors peut-être à mi-chemin entre une évocation historique et puis l'évocation plutôt esthétique du Marie-Antoinette de Sofia Coppola, évoquée tout à l'heure, puisque en 2012, donc il n'y a pas si longtemps, Benoît Jacquot décida de tourner et plutôt de porter à l'écran un roman de Chantal Thomas intitulé « Les adieux à la reine » et qui là encore évoquait, comme Marie-Antoinette, eh bien, la vie de Marie-Antoinette à la cour de Versailles, mais d'une certaine manière qui se commençait et se déroulait à peu près au moment où le film de Sofia Coppola se terminait, c'est-à-dire quelque part entre le 13 et le 14 juillet 1789, ou dans ces eaux-là en tout cas, quand la Révolution commence vraiment et qu'à Paris, on prend la Bastille et qu'à Versailles, avec un petit peu de retard, mais quand même Versailles, ce n'est pas si loin, on apprend la chose sans évidemment pouvoir en mesurer la portée historique. D'ailleurs, je pense que bien malin aurait été celui qui aurait pu prédire la portée historique de l'événement. Et le film se situe dans cette incertitude. Et c'est certainement, avec quelques autres aspects, le plus intéressant de la chose. C'est-à-dire, non pas essayer d'évoquer 1789 avec le regard de 2012 en l'espèce, mais d'évoquer 1789 avec le regard de 1789. C'est-à-dire en replaçant des êtres humains, personnages historiques, mais aussi êtres humains, dans un contexte où il est bien difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir. Et du coup, chacun se révèle dans ses travers ou dans ses noblesses, et plutôt dans ses travers que dans ses noblesses, vous l'aurez compris. Là encore, tout comme le film de Sofia Coppola, eh bien, celui de Benoît Jacquot a fait scandale, un petit scandale mondain, puisqu'il ne laissait que peu d'incertitudes sur ce qui, par contre, reste historiquement non prouvé, c'est-à-dire les intérêts saphiques de la dite Marie Antoinette, incarnée en l'espèce par Diane Kruger, qui n'est pas insensible, c'est le moins qu'on puisse dire dans le film, au charme de Gabrielle de Polignac, incarnée dans le film par Virginie Ledoyen. On peut ne pas être insensible au charme de Virginie Ledoyen. Tout ça, là encore, prenait le risque de faire un film arty, un peu vain, un peu sophistiqué, mais c'était sans compter sans le grand talent de Benoît Jacquot et puis aussi le roman sur lequel il s'appuie de Chantal Thomas, avec une façon de filmer, parfois caméra à l'épaule, qui vraiment nous plonge au cœur de Versailles dans l'incertitude de ces jours premiers de la Révolution française, qui bien évidemment va balayer tout ce petit monde et même tout ce grand monde, et le petit monde et le grand monde, qu'on voit aussi de façon extrêmement intéressante dans le film, c'est-à-dire d'un côté la noblesse, la cour et son étiquette, et puis de l'autre, eh bien, les soutiers, ceux qui assurent justement cette cour et cette étiquette à Versailles. Là encore, le film est tourné à Versailles avec un grand souci d'authenticité historique, plus encore que dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et ce n'est que justice, donc, si le film obtint en 2012 toujours le prix Louis de Luc, certainement le plus prestigieux prix attribué à un film français. La musique de ce film était signée de Bruno Coulet, réalisateur bien connu pour son originalité. Et on va s'en écouter un petit mais décisif extrait, « Les adieux à la reine » Benoît Jacquot dans 24 notes secondes.
Thank you.
L'étrange musique, pas vraiment d'époque, mais parfaitement adaptée aux propos. L'étrange musique, donc signée par Bruno Coulet pour Les Adieux à la Reine, un film de Benoît Jacquot, tourné en 2012, une évocation de la vie de Marie-Antoinette qui se terminait là aussi par une fuite. Mais je vous laisse le soin de voir ce remarquable film. Et bien, c'est quasiment avec ça que nous allons conclure notre émission de ce jour consacrée à la Révolution française. Et on va se repasser encore un petit extrait de cette petite merveille, Les Mariés de l'an 2. Ça ne passe plus à la télé, puisque la télé ne passe plus rien et ça existe sans doute en DVD. Alors précipitez-vous, comme ça vous pourrez écouter ça. Michel, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, Mathieu Silouvet.